pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue. Ils sont à la fois victimes et témoins du changement de notre climat. Nous parlons des glaciers aujourd'hui, des glaciers qui fondent à cause, entre autres, du réchauffement de notre planète. Et ce n'est pas sans conséquence sur notre environnement, sur le niveau des mers et sur les cours d'eau. Mais les glaciers font aussi le bonheur des chercheurs, puisqu'ils enregistrent en leur sein les variations de notre climat sur plusieurs millénaires. En Bolivie, le glacier de Lilimani dans la cordillère des Andes contient par exemple 18 000 années d'archives climatiques. Lilimani qui culmine à 6400 mètres et on vient de s'achever la deuxième grande expédition scientifique menée dans le cadre du projet Ice Memory. Avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amaël Landé, glaciologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement rattaché au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jérôme Chaplaz.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement et vous revenez d'un séjour en Bolivie. Vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu Isère dont nous remercions les équipes techniques et à vos côtés Antoine Rabatel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement.
C'est pas du vent sur RFI.
Il faut imaginer que une carotte de glace, en fait, c'est comme un livre. Et c'est un livre qui nous raconte une histoire. L'histoire, la plus vieille, elle est au fond et la récente, elle est en haut. Et puis, bah, si on arrive à tourner toutes les pages, eh ben, on a une super histoire du climat, aussi une archive de l'atmosphère qu'il y a ici, quoi. Et, mais s'il y a des couches qui sont fondues à un moment donné, eh ben, on perd des pages. Et l'histoire, eh ben, on n'arrive plus trop à la comprendre. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est que on sait que ce glacier ne va pas disparaître. En revanche, on aimerait avoir l'histoire la plus belle possible et que toutes les pages soient encore disponibles pour les générations futures.
C'était le chercheur Nicolas Caillon qui a participé à cette deuxième expédition d'Ice Memory et qui a rencontré notre correspondante en Bolivie, Alice Campagnol. Nous aurons le loisir d'écouter son reportage dans quelques instants. Mais d'abord, Jérôme Chaplaz, cette expédition en Bolivie fait donc partie d'un projet plus large, Ice Memory, hein, c'est un projet international pour conserver la mémoire de la glace.
C'est tout à fait cela, et mon collègue Nicolas Caillon a très très bien exposé les enjeux. Nous sommes dans une situation de sauvegarde d'une mémoire. Cette mémoire constituée par les couches de neige s'accumulant année après année à la surface d'un glacier, s'enfonçant dans les couches profondes, et nous racontant du coup cette histoire sur des centaines, voire des milliers, et dans certains cas, dizaines de milliers d'années. Tout l'enjeu pour notre projet, c'est de faire en sorte que l'on stocke des carottes de glace issues de ces glaciers avant qu'ils ne se retrouvent dans des conditions impropres aux études du climat et de l'environnement. Et, fait très important, ces carottes de glace, on souhaite les stocker en Antarctique à très long terme, des décennies voire des siècles, pour que la science de demain puisse voir le jour avec de nouvelles idées, de nouvelles technologies et la matière première que l'on aura mis de côté pour cette science de demain.
Et une première expédition de ce projet Ice Memory avait été menée l'année dernière en France, dans le massif du Mont Blanc.
C'était la première expédition. En août 2016, l'équipe s'est rendue sur le glacier du Col du Dôme, situé juste en dessous de l'arête sommitale du Mont Blanc, à 4300 mètres d'altitude. Et l'équipe avait réussi à collecter trois carottes jusqu'au socle rocheux, représentant pratiquement 130 mètres d'épaisseur de glace.
Et si nous partions, si possible, sans vertige, au bas du glacier de Lilimani, qui surplombe la capitale de la Bolivie, La Paz, où vient donc de s'achever la deuxième expédition de ce projet Ice Memory, expédition qui aura duré près d'un mois, Alice Campagnol a pu grimper avec son micro jusqu'au camp de base des chercheurs de l'équipe, à 4500 mètres d'altitude, soit 2000 mètres en dessous de Lilimani. Reportage.
Il est 5h30 du matin, le camp de base se réveille peu à peu. On attend donc les carottes qui sont en train de descendre. On peut les voir hein, sur le flanc de la montagne, on voit les lampes des porteurs qui sont en train de descendre. C'est un paysage à couper le souffle. Il y a une pleine lune qui éclaire donc Lilimani enneigée. On y voit quasiment comme en plein jour. Et puis au loin, on a les lueurs de la ville de La Paz. Donc peu à peu, les scientifiques vont se lever et on va attendre, on va regarder arriver ces carottes qu'il faut manipuler avec énormément de précautions.
Alors là, ce que l'on entend, c'est le vent qui souffle contre la toile du Grand Dôme, hein, où on stocke le matériel. Aujourd'hui, ça souffle fort ici au camp de base, un vent assez froid. Alors, quand le temps ici est mauvais, on ne peut pas s'empêcher de penser à ceux qui sont là-haut, parce qu'au sommet, en fait, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Thomas Condon, vous êtes sur le point de monter. Qu'est-ce que vous allez faire là-haut ?
Donc on va aller au camp intermédiaire avec l'équipe dite radar, on va dire. Donc on va aller dormir une nuit là pour s'acclimater, parce que c'est quand même très difficile de monter directement au sommet. Et demain matin, on ira au sommet pour finalement à la fois faire les mesures radar et thermistance. Et la mesure sur la thermistance, c'est installer finalement une chaîne d'enregistrement de température tout au long du forage, donc jusqu'à 137 mètres, pour essayer de voir quelle est la température à l'intérieur du glacier. Et à la fois aussi appuyer et aider les personnes qui sont au forage.
D'accord. Comment ils sont là-haut ?
Là-haut, bah, disons qu'ils ont subi des conditions extrêmement difficiles, hein, la semaine dernière. Ils ont eu des vents à plus de 70 km/h, avec une nécessité de baisser certaines tentes, les grandes tentes, de rester parfois 24 heures dans une tente à attendre que la tempête passe. Donc ils ont quand même une certaine dose de fatigue. Mais d'un autre côté, comme maintenant le forage est vraiment en fonctionnement et qu'il y a déjà eu une perforation jusqu'à 140 mètres, ils sont aussi encore pleins d'énergie pour faire la seconde carotte.
Voilà, après, il y avait un autre point un peu plus important.
L'équipe de scientifiques qui est ici sur le camp de base donc est prête à monter. Elle est précédée de quelques minutes par les porteurs qui vont acheminer de la nourriture, du matériel, autant donc sur le camp intermédiaire que jusqu'au sommet. Je suis avec Christian Vincent, juste avant qu'il ne parte. Christian Vincent est ingénieur de recherche au CNRS et chargé sur cette mission des mesures de température. L'idée ici, c'est de savoir si le glacier s'est réchauffé depuis la dernière carotte, hein, qui a été faite ici il y a 20 ans. Christian, pourquoi prendre la température d'un glacier ?
Parce qu'on s'est aperçu qu'à peu près dans tous les glaciers du monde, les glaciers de très haute altitude se réchauffent. Les glaciers de très haute altitude dans le monde sont à température négative, ce qui n'est pas le cas de tous les glaciers du monde, hein, puisqu'il y a beaucoup de glaciers qui seront à 0 degré. Mais les glaciers de très haute altitude ont cette particularité d'être à température négative, et avec le réchauffement atmosphérique, ils se réchauffent, leur température interne augmente, du fait du réchauffement de l'atmosphère, du fait de la fonte en surface, parce que même s'il y a très peu de fonte en surface, cette taux de fonte percole, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre dans le manteau neigeux et dans la glace, et lorsqu'elle atteint la glace froide en profondeur, elle regèle et elle apporte de la chaleur en regelant. Elle entraîne tous les éléments chimiques qui sont contenus naturellement dans la neige et dans la glace, donc elle lessive ces éléments chimiques, c'est-à-dire qu'elle les entraîne en profondeur, et finalement elle est en train de détruire les archives naturelles de la composition atmosphérique et du climat du passé.
Alors donc, nous sommes au pied de l'Illimani, hein, au camp de base. On est à 4500 mètres d'altitude ici. C'est déjà la nuit, et en fait avec toute l'équipe, nous sommes en train de fixer le sommet. On a les yeux vers la montagne parce qu'on observe des petites lumières qui sont en train de descendre. Je suis avec Joël Savarino, chimiste et chercheur à Grenoble. Joël, nous sommes en train de regarder les porteurs qui descendent, c'est ça ?
Là, ils viennent de quitter le sommet, et on les voit là avec leurs lumières, et en fait ils vont s'arrêter au nid du condor qu'on voit pas vraiment là, qui est sur la crête rocheuse. Là ils en ont encore au moins pour 2 heures. Et ensuite demain matin c'est des porteurs qui vont les rejoindre et qui vont récupérer les carottes, et eux vont rester au nid du condor. Du coup on se demande là pour l'instant combien de carottes ils transportent avec eux pour organiser un peu la logistique demain matin quand les carottes redescendront.
Alors Joël, quel est l'intérêt de prélever toute cette glace ?
L'intérêt d'aller forer ce type de glacier, hein, c'est d'abord, il se trouve dans les zones tropicales, Donc c'est une zone où il y a peu de glace, hein, de manière générale. Donc dès qu'il y a un glacier, eh ben, il a cette capacité à pouvoir enregistrer l'information par l'accumulation successive de couches de neige. Plus on perd fort profondément et plus on remonte dans le temps. Alors si je peux prendre un exemple, on va prendre par exemple une éruption volcanique. Donc elle va émettre des quantités de soufre importantes dans l'atmosphère, ça va se diluer, ça va se disperser sur l'ensemble du globe. Et ensuite, ce soufre est transformé en petites gouttelettes d'acide sulfurique qui vont se redéposer par sédimentation et donc qui vont retomber au sol. Alors avec la neige, on a cette capacité de pouvoir les enregistrer, de les préserver surtout. C'est plus acide, hein, d'acide sulfurique, elle se dépose sur toute la surface du globe, mais il n'y a que la neige qui a cette capacité de pouvoir l'enregistrer et la préserver. Donc il y a une partie dédiée à la science, donc une carotte sera dédiée à la science où elle sera analysée avec les technologies actuelles. Et la deuxième carotte sera préservée en Antarctique, qui est le meilleur frigo du monde, hein, qui tombe jamais en panne celui-là. Et donc cette carotte sera dédiée aux générations futures lorsque les technologies auront évolué, les capacités d'analyse aussi, et donc de pouvoir avoir un matériau disponible, puisqu'avec le réchauffement climatique, ce type de glaciers tropicaux risquent de perdre leur capacité à préserver l'information climatique. C'est pas qu'ils vont disparaître, mais c'est qu'il risque d'y avoir des fontes estivales de plus en plus régulières, avec donc de l'eau qui va percoler et un mélange des couches qui va se produire, et donc on perd cette saisonnalité que actuellement le glacier préserve.
Reportage d'Alice Campagnol au cœur de la deuxième expédition du projet Ice Memory sur le glacier de l'Illimani en Bolivie. Alors on l'a entendu, hein, l'équipe internationale a réussi à extraire deux carottes de glace. Qu'est-ce que c'est en fait une carotte de glace, Jérôme Chaplaz ?
Une carotte de glace, c'est un cylindre de glace qui fait environ 10 cm de diamètre, environ 1 mètre de longueur, et que l'on obtient par forage successif dans le glacier. Donc le principe, c'est d'envoyer un carottier, qui est une espèce de gigantesque foreuse, prélever ce cylindre de 10 cm de diamètre, 1 mètre de longueur. On ramène le carottier en surface, on le vide, on récupère donc ce mètre de carotte et on recommence. Et c'est donc ces successions d'épisodes de forage qui nous amènent jusqu'au socle rocheux et qui constituent la carotte de glace en section cumulée de 1 mètre de longueur jusqu'à, dans le cas de l'Illimani, pratiquement 140 mètres de longueur.
Et ces carottes de glace sont de formidables outils d'analyse.
La glace, quand on la regarde, on a l'impression de voir que de l'eau. En fait, ce n'est pas que de l'eau, il y a beaucoup d'impuretés à l'intérieur qui sont intégrées avec les flocons de neige quand ils se déposent en surface. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des aérosols, par exemple, des petites gouttelettes de particules liquides ou solides, et puis également des gaz qui sont piégés dans les petites bulles constituées par la glace.
Alors les glaciers représentent 700 000 km² à l'échelle de la Terre. Pour vous dire, c'est la superficie de la France, territoire d'outre-mer compris. Antoine Rabatel, qu'y a-t-il de commun à tous ces glaciers? Ou en fait, comment peut-on définir un glacier?
Ce qu'il y a de commun à tous ces glaciers, c'est leur mode de formation, hein, puisque effectivement un glacier c'est une accumulation de neige qui progressivement se transforme en glace. Et une accumulation qui est généralement considérée comme pérenne sur des échelles de temps de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et cette glace, elle n'est pas statique, elle s'écoule sous l'effet de son propre poids, donc sous l'effet de la gravité, depuis les parties hautes où elle s'accumule jusqu'aux parties les plus basses, où elle va avoir tendance à fondre du fait des conditions climatiques plus chaudes en général.
Et pour bien comprendre ce qu'est un glacier, il faut faire la distinction entre neige et glace.
Oui, dans un glacier, on trouve ces deux éléments, hein, puisque la glace de glacier, c'est pas de l'eau qui aurait gelé, mais c'est bel et bien de la neige qui s'accumule année après année sous l'effet des précipitations principalement, et qui va progressivement se transformer en glace par ce qu'on appelle métamorphisme, grosso modo lié à la compaction, à l'accumulation des couches de neige successives année après année.
Et on trouve des glaciers sur plusieurs continents du monde, pas seulement l'Amérique du Sud, hein, dans la cordillère des Andes, Jérôme Chaplaz.
Oui, et si on parlait par exemple de l'Afrique, on a du mal à imaginer que l'Afrique contienne des glaciers. Il y en a très peu, en fait, à ma connaissance, il n'y en a que deux. Le glacier du Kilimandjaro, qui arrive hélas en fin de vie, et le glacier Lewis, qui est sur la pente ouest du mont Kenya. Mais il y a beaucoup plus de glaciers ailleurs, au total plus de 200 000 glaciers à la surface de la planète, auxquels s'ajoutent les immenses calottes de glace que l'on rencontre au Groenland ou en Antarctique.
Et justement, les calottes glaciaires, ce sont donc des glaciers très étendus, étendues qui sont sous la forme de nappes de glace et qui recouvrent la terre ferme. Amel Landé, vous, ce sont ces glaciers-là qui vous intéressent et que vous étudiez?
Oui, tout à fait. C'est plutôt dans les régions polaires, en Antarctique et au Groenland, que j'étudie des carottes de glace aussi. Plus longues que celles qu'a mentionnées Jérôme Chaplas, parce que l'épaisseur de la calotte sur les régions polaires peut atteindre plus de 3 km d'épaisseur et donc remonter dans le temps beaucoup plus loin que les 18 000 ans de la carotte de l'Illimani, donc, dont on a parlé dans votre reportage, mais on peut remonter jusqu'à actuellement 800 000 ans avant aujourd'hui en Antarctique.
Quel intérêt présente la glace de cette région ?
Alors, l'ancienneté d'abord, évidemment, on va aller en Antarctique, au Groenland, on va remonter très loin dans le temps. On est aussi loin de toutes les zones d'habitation, ce qui veut dire que quand on va mesurer dans ces carottes de glace, reconstruire la concentration en gaz à effet de serre, par exemple, on va pas être gêné par les influences locales et on va reconstruire une évolution de la concentration en gaz à effet de serre qui est vraiment globale. Et donc ça, c'est très important à comprendre pour comprendre les variations préanthropiques et puis les variations induite par l'activité humaine depuis quelques centaines d'années.
À quoi est due la fonte des glaciers, Antoine Rabatel? On en parle. On sait que nos glaciers sont en danger, que leur masse diminue avec des conséquences dont on parlera un peu plus tard. À quoi est due cette fonte des glaciers?
Donc la vie d'un glacier, d'une manière générale, elle dépend des conditions météorologiques et climatiques sur un terme plus long. Donc l'accumulation de neige et de glace, elle va dépendre principalement des précipitations. Et puis la fonte de cette neige et de cette glace, elle va dépendre de l'ensemble des paramètres météorologiques qui vont contrôler ce qu'on appelle le bilan d'énergie à la surface du glacier, c'est-à-dire l'ensemble des échanges d'énergie entre le glacier et l'atmosphère. Donc l'évolution d'un glacier, elle est liée à l'évolution de ces paramètres météorologiques et donc climatiques, du climat, sur des temps plus longs. Et ce qu'on peut mettre en évidence quand on regarde l'évolution récente des glaciers à l'échelle des dernières décennies, c'est que le recul très marqué des masses de glace, que ce soit dans les Andes ou d'une manière générale sur l'ensemble de la planète, est bien en correspondance avec l'augmentation des températures atmosphériques.
Et à l'échelle des 150 dernières années, la part de la perte des glaciers attribuable aux activités humaines n'était que de l'ordre de 25%. Et quand on regarde les dernières décennies, cette part est de presque 70%. C'est énorme.
Oui, c'est effectivement très important. Donc vous mentionnez là les résultats de travaux de collègues autrichiens et allemands qui ont mis en évidence effectivement l'augmentation de la part des activités anthropiques dans le réchauffement climatique et donc dans les pertes de masse très importantes enregistrées par les glaciers au cours des trois dernières décennies.
Et plus précisément, comment les activités humaines impactent les glaciers ?
C'est pas un impact direct, encore une fois, c'est un impact par le biais de la modification des conditions météorologiques et climatiques, et notamment l'augmentation de l'effet de serre lié au rejet dans l'atmosphère par ces activités humaines de gaz à effet de serre comme le CO2, le méthane, qui ont un impact sur la température à l'échelle globale. Et donc c'est par cet intermédiaire qu'on peut effectivement faire un lien entre l'impact des activités humaines sur l'évolution récente des glaciers.
Et en Antarctique, à Amel Landé, des chercheurs ont découvert tout récemment qu'un glacier s'était brisé de l'intérieur et non dans sa périphérie à cause des eaux réchauffées.
Alors, tout n'est pas homogène en fait en Antarctique, mais il y a effectivement autour de l'Antarctique des zones qui vont se réchauffer fortement et effectivement favoriser le détachement de certains grands bouts de glace, quoi, de certains glaciers. Oui.
Et c'est inquiétant en Antarctique?
Ben oui, c'est évidemment inquiétant. L'Antarctique, c'est évidemment la plus grande réserve d'eau douce au monde. C'est celle qui, si elle se déstabilise, va évidemment contribuer le plus à l'augmentation du niveau des mers. Donc effectivement, l'Antarctique, le bilan de masse de l'Antarctique, donc l'évolution de la calotte antarctique est sous surveillance.
Et nous allons parler des conséquences de cette fonte des glaciers sur notre planète. Vous restez avec nous. Nous continuerons donc d'arpenter les glaciers de notre planète bien assis dans notre studio ou derrière le poste, à l'écoute de ce que les glaciers nous disent de notre climat, passé, présent et bien sûr futur. À tout de suite dans 3 minutes après le flash.